Bonsoir et bon début de semaine à tous. Les émissaires de la conférence épiscopale nationale du Congo et ceux de l'église du Christ au Congo ont plaidé mercredi 13 avril pour le dialogue et les consensus autour des élections de 2023 en République démocratique du Congo. Ils ont fait cette proposition lors de leur échange avec le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Ces deux confessions religieuses estiment qu'il est nécessaire de dégager un minimum de consensus sur le processus électoral pour consolider la démocratie dans le pays. Et selon Mgr Donatien Cholet, il faut nécessairement passer par le dialogue, mais pas le dialogue pour partager le pouvoir. Cependant, certains regroupements politiques s'opposent à cette proposition. C'est notamment le centre qui estime qu'un dialogue n'aurait de sens que si après, sincèrement fourni tous les efforts pour répondre aux contraintes évoquées par la CENI, le pays est mis devant le fait accompli de l'impossibilité logistique et matérielle de tenir les délais légaux de l'organisation des élections. Quelle analyse faites-vous de la proposition de la CENCO et de l'ECC pour des élections apaisées? Nous en parlons ce soir avec le révérend Eric Nsenga. Il est porte-parole de l'ECC et secrétaire général de l'ECC en charge de la commission justice, paix et sauvegarde. Révérend Eric Nsenga, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Professeur Jean-Claude Tshilumbayi qui va nous rejoindre dans un tout petit moment. Lui, il est député provincial et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Avec nous également dans ce débat, le professeur Bob Kiabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique. Il est coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes. Professeur Bob Kiabamba, bonsoir.
Oui, bonsoir madame.
Vous êtes déjà très nombreux à envoyer vos réactions. C'est le cas de Emerine Zanzou. À mon avis, l'organisation du dialogue est d'une importance capitale car les parties prenantes au processus électoral ne se sont pas convenues sur le choix des acteurs pouvant organiser ces élections. Mais aussi, par ce dialogue, la CENI devra expliquer aux différents acteurs politiques et de la société civile le niveau de blocage de la machine électorale actuellement. Ne pas organiser le dialogue, c'est préparer un chaos électoral. Antoine Alour, depuis la ville de Bounia dans la province de l'Ituri, la CENCO et l'ECC doivent arrêter de prendre le pays en otage avec leur proposition qui ne pourrait que retarder le calendrier électoral. Mbujima Yokasa Oriental, vous nous suivez sous la 93.8 et si vous êtes en dehors du Congo, vous avez la possibilité de nous suivre sur www.radiokapi.net ou encore sur Canal Plus, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Processus électoral en RDC, les églises catholiques et protestantes de la RDC plaident pour des élections apaisées et crédibles. En 2023, les émissaires de la CENCO et de l'ECC ont échangé mercredi dernier avec le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Pour ces deux confessions religieuses, il faut dégager un minimum de consensus sur le processus électoral en cours pour consolider la démocratie en RDC. Le secrétaire général de la CENCO, Mgr Donatien Cholet, est au micro de Michel Kifinda.
Et notre préoccupation, c'est un minimum de consensus des forces vives du pays est nécessaire pour les élections apaisées crédibles. C'est dans ce sens-là que nous sommes délégués par notre hiérarchie pour faire le tour de certains acteurs politiques qui peuvent contribuer à favoriser ce minimum de consensus. Le terme dialogue fait peur dans le contexte sociopolitique congolais. Mais il y a plusieurs façons d'arriver au consensus qui ne soit pas le dialogue au sens où beaucoup l'entendent. Parce que nous sommes condamnés à dialoguer. Il faut nécessairement passer par le dialogue, mais pas le dialogue pour parler. partager le pouvoir, mais on peut dialoguer sans être sur une même table. Le dialogue peut se passer au niveau technique, au niveau politique. Ces considérations-là, c'est secondaire. C'est d'abord la volonté d'accepter qu'il faut un minimum de consensus pour sauver le pays.
Révérend Eric Singa, vous êtes porte-parole de l'Église du Christ au Congo et secrétaire général de l'ECC en charge de la Commission Justice, Paix et Sauvegarde. Vous avez rencontré certains acteurs politiques, dont le président du Sénat la semaine dernière, pour faire des propositions afin que les élections se déroulent dans un climat apaisé, qu'on organise des élections crédibles en 2023. Vous proposez le dialogue et le consensus autour des élections de 2023. Qu'est-ce qui motive votre démarche, révérend Eric Singa?
Merci, Madame Kelly. Je m'en voudrais si je ne commençais pas par saluer le professeur Bob Kabamba, qui est avec nous en ligne, et je pense que le professeur Chilomba également, qui va nous rejoindre. Disons que la démarche de l'ECC et de la CENCO s'inscrit en réponse de la publication de la feuille de route de la CENI. Il vous souviendra déjà qu'en février, l'équipe de la CENI nous a présenté une feuille de route assortie des contraintes. Après l'avoir minutieusement analysée au niveau de nos équipes techniques, nous avons, ce qui est des droits d'ailleurs, pris la responsabilité de répondre à ces trois contraintes qui ont été présentées à l'opinion tant nationale qu'internationale. Je crois que nous avions tous suivi cela. Et à partir de là, nous avions convenu entre nous qu'il était important de prendre deux choses en considération. La première, c'est de voir dans quelle mesure il faille trouver un nombre de consensus sur le plan opérationnel ou technique, c'est-à-dire il y a des éléments qui relèvent de l'opérationnalité, notamment l'enregistrement des électeurs, l'identification, mais il y a aussi des éléments qui, et ça c'est le point B, qui relèvent d'un consensus politique. Parce que vous le savez comme nous, un processus électoral a justement ces deux aspects. Il y a des aspects éminemment politiques qui d'ailleurs orientent et donnent la direction à des options opérationnelles ou techniques. Chose qui a été faite, mais je voudrais ici insister et annoncer à ceux qui ne le savaient pas, avant d'arriver au niveau institutionnel et tactique avec le président Bahati, qui nous a fait honneur de nous réserver cette audience, nous avons commencé par le président Mbosso, mon collègue, Monseigneur Cholet, qui avait conduit, et l'équipe, moi j'étais en déplacement en dehors du pays, avait vu le président Mbosso pour à la fois présenter nos contributions en termes de la procédure des réformes. Donc c'est pour ici lever déjà l'équivoque dans les esprits de ceux qui pensent que l'ECC et la CENCO se seraient inscrites dans la logique de boycotter la procédure des discussions. Nous ne sommes pas dans cette logique-là. Donc nous sommes d'avis qu'il faudrait avoir les discussions au niveau des réformes électorales.
Révérend Eric Singa, le train est déjà en marche, la CENI est déjà composée, elle a même présenté sa feuille des routes. Votre proposition de dialogue ne risque-t-elle pas de retarder les élections et favoriser le glissement alors que tout le monde attend les élections l'année prochaine?
Il y a plutôt un problème que d'aucuns ne veulent pas voir clairement, c'est que la feuille des routes présenté par la CENI, qui du reste n'est pas le calendrier électoral, nous met déjà dans une situation difficile. Vous savez, madame, dans les prévisions de la feuille de route, il a été question que ces opérations commencent en octobre 2021 avec prétention d'être clôturées en mars 2023, donc supposées à 20 mois. À l'heure où nous parlons, nous sommes déjà en retard de près de 5 mois sur la base de la même feuille de route. Deuxième aspect, alors que nous sommes en train d'assister à des jeux de ping-pong entre l'institution CENI et les gouvernements sur la question des mutualisations et la question des financements, il n'y a pas encore un budget clair présenté par la CENI, moins encore un plan de décaissement élaboré de manière rationnelle. Donc, si nous considérons les termes de l'organisation des élections, il est plutôt intéressant que nous tous nous tournions vers le pouvoir organisateur des élections qu'est la CENI pour l'interroger sur l'exigence constitutionnelle de nous offrir les élections en 2023. Donc s'il faut parler glissement, ce n'est pas à l'ECC ni à la CENCO de répondre. Par contre, nous venons répondre aux contraintes qui sont présentées par la CENI et l'idée pour nous justement c'est de dire si s'il faut suivre l'avis de tout technicien averti, madame, nous sommes déjà en ligne rouge par rapport à la possibilité d'avoir les élections en 2023, sans compter les options politiques qui nécessitent à trouver un certain nombre de consensus. Vous savez, le plus dur sera à quel niveau ? Parce que lorsque nous évoluons dans ce sens et que les uns les autres ne veulent pas prendre la mesure de la chose, le jour où la CENI viendra nous exposer les difficultés prétendant ne pas être en mesure d'organiser les élections en 2023, c'est là où nous allons nous rendre compte que nous marchons sur les œufs. Et nous, comme pasteurs, comme église, nous ne pouvons pas attendre que les choses arrivent à ces points. Nous prenons de l'avance et c'est cela notre devoir, notre responsabilité en même temps, de pouvoir faciliter les choses pour que les uns les autres, comme acteurs, puissions aller dans le sens de rencontrer les contraintes présentées par la CENI, dégager des options majeures en termes de consensus et assurer un processus beaucoup plus crédible, apaisé et inclusif.
Et qui prendrait part à ce dialogue, révérend Eric Senghor? Ce dialogue aura quel format?
Déjà ici, il faut rappeler que nous avons fait le tour de tous les groupements politiques de l'opposition. On a déjà discuté avec eux et ce qui est intéressant, en tout cas, tous se sont d'accord sur l'initiative d'y discuter. Nonobstant les revendications des uns et des autres, ce qui est tout à fait normal, mais pas seulement l'opposition, nous avons déjà aussi commencé à discuter avec les autres composantes de la majorité. Donc, au-delà des institutions étatiques, là, le Sénat ou l'Assemblée nationale, le tour que nous avons déjà fait couvre une bonne partie de la représentativité des deux forces en présence. Je crois que la liste n'est pas exhaustive, et c'est peut-être pas encore le moment de dire qui prendra part, mais en résumé, ce sont les parties prenantes au processus électoral et les acteurs majeurs qui décident justement ensemble pour arriver à avoir ces élections.
Certains regroupements politiques s'opposent à votre proposition. C'est notamment le regroupement politique Les Centres qui estime qu'un dialogue n'aurait de sens que si, après avoir sincèrement fourni tous les efforts pour répondre aux contraintes évoquées par la CENI, le pays est mis devant le fait accompli de l'impossibilité logistique et matérielle de tenir les délais légaux de l'organisation des élections.
C'est ça la beauté de la discussion, madame. Les CC et la CENCO n'ont pas la prétention de donner une panacée exclusive. Si les amis du centre interagissent dans ce sens, nous pensons que c'est ce qui fait la richesse de du dialogue et même la beauté de la démocratie. Donc ici, pour nous, l'idée est que nous devons nous offrir un espace public, rationnel et démocratique, qui pourrait permettre aux uns et aux autres d'interagir, comme disait tout à l'heure, lors de l'interview, mon collègue Monseigneur Chollet. Ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas les formats. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas une solution a priori qui aurait déjà été fixée par nous, mais c'est plutôt ouvrir la dynamique dialogique, laquelle pourra permettre à la nation en tant que telle d'interagir et constituer notre cerveau collectif, comme on en a d'ailleurs l'habitude, et par là, nous pouvons déjà anticiper. Seulement, il serait risqué, et trop risqué, de penser qu'il ne serait pas encore temps et d'envisager laisser les choses aller jusqu'à un certain point. C'est cela d'ailleurs le risque à éviter parce que je ne suis pas en train de voir les contextes sociopolitiques d'aujourd'hui et ajouter à cela toute la tension, même au niveau culturel, ethnique. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes en train aussi de travailler pour maîtriser ces spectres du discours sur le tribalisme. Et qui pourrait nous surprendre outre mesure que ça? Donc l'Église ne peut pas réfléchir comme un courant politique. L'Église a une responsabilité morale et spirituelle. Il revient de sa responsabilité d'anticiper les choses, mais avec possibilité d'ouvrir s'ouvrir à d'autres contributions, comme les amis du centre l'estiment bien.
Il faut passer par le dialogue, mais pas le dialogue pour partager le pouvoir. On sait comment ça se passe dans notre pays. Chaque fois qu'on organise un dialogue, à la fin, c'est un partage de pouvoir, partage des postes. Pensez-vous vraiment que ça ne risquerait pas d'être le cas avec ce dialogue que vous proposez, révérend Senghor?
La seule manière d'éviter les dialogues, c'est de faire les choses conformément aux normes de notre pays. C'est faire une mise en place des CENI moins contestée en respectant la représentativité des partis en présence et d'adopter des lois qui qui dégage des options consensuelles pour que les uns les autres s'identifient en elles, c'est de donner l'argent à la CENI en temps réel et suivant un budget rationnellement présenté pour que les opérations se passent. Donc, il faut que nous démystifions d'abord ces concepts de dialogue. Ne donnons pas l'impression que c'est l'Église qui amène l'idée du dialogue. Le dialogue ici ne peut arriver à s'accepter que comme moyen par lequel nous voudrons résoudre le problème. Quel est le problème? Ce sont les contraintes. Ce n'est pas nous qui inventons les contraintes. C'est la CENI, madame, qui nous a présenté un tableau assorti des contraintes. Et nous, nous venons comme partie prenante, d'une part, d'autre part, comme des institutions religieuses, les porteuses d'une voix importante de la nation, pour dire, bah, écoutez les amis, nous avons un problème, nous présenté par la CENI, la solution... Et nous allions aux élections en 2023 qui soient apaisées, crédibles et inclusives. Et quels seraient les moyens ou l'approche? Il faut envisager une approche consensuelle qui nécessairement passerait par des mécanismes dialogiques, parce que je n'en vois pas. Si les autres ont d'autres propositions meilleures que cela, nous serons intéressés.
Professeur Jean-Claude Tshilumbaï, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes député provincial et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Vous avez suivi l'actualité comme tout le monde, j'imagine. La SENCO et les CC ont plaidé la semaine dernière pour le dialogue et les consensus autour des élections de 2023 en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, je pense que le dialogue comme... Révérend le dit, c'est une vertu pour toute société, mais lorsqu'il est opportun en tant que tel. Moi, j'ai étudié les sciences politiques. Je ne connais pas dans l'histoire un seul processus de négociation politique qui n'a pas abouti par le partage de pouvoir. Ça n'existe pas. Négociation politique égale partage de pouvoir. Si Monseigneur en connaît une exception, il pourra bien la donner à notre population qu'elle l'entende. Pour dire que pour moi, inviter aujourd'hui à un dialogue, quel que nom qu'on lui donne, c'est que les églises veulent concrètement qu'elles rentrent à la logique de partage de pouvoir. Pourquoi? Parce que dire qu'on veut le dialogue pour trouver un minimum de consensus signifie, à mon avis, sortir du cadre institutionnel établi pour aller régler les problèmes du pays en dehors des institutions. Parce que là, lorsqu'il cite les parties prenantes, il prend d'une part les institutions, le Sénat, l'Assemblée, et ça pourrait être même exclusif, parce que moi, par exemple, je suis un député provincial, nous exigerons, nous aussi, comme élus provinciaux, que lorsque on parlera des élections, par exemple, des gouverneurs, qu'on consulte aussi les assemblées provinciales, sinon nous allons contester les résultats de ce dialogue, là, lorsque nous ne serons pas parties prenantes. Deuxièmement, il veut que le dialogue vienne pour affronter les contraintes, alors que les contraintes, lorsque la CENI les énumère, elle énumère aussi l'argent. Comment on irait dialoguer en dehors des institutions pour trouver l'argent à donner à la CENI pour qu'elle organise des élections? Ça signifie qu'il faudra trouver dans le cadre du dialogue un bon ministre des Finances ou plus bon ministre des Finances qui mobiliserait l'argent. Il faudra trouver dans le cadre du dialogue un premier ministre qui va coordonner autrement les choses pour que l'on trouve l'argent et que l'on donne à la CENI. Et je ne vois pas par quelle magie on irait négocier une négociation politique sans partager le pouvoir. Je rappelle au révérend pasteur que ça n'existe pas en sciences politiques. S'il en connaît un modèle, il va nous le donner pour qu'on tente de l'utiliser. Maintenant, lorsqu'il soulève la question des parties prenantes, là, je vois, on cite les institutions politiques, on cite le Sénat et l'Assemblée, on se limite là. On cite les parties prenantes au processus électoral. Je sous-entends les partis et regroupements politiques. Et il dit les décideurs majeurs. Les décideurs majeurs, je ne sais pas ce que ça implique comme compréhension. Et c'est ces gens-là, ils vont devoir négocier. Ça sera quoi le crédit ou la crédibilité des décisions qu'elles vont prendre si aujourd'hui l'Assemblée nationale qui est élue par tout le monde, à laquelle se retrouve toute notre population, ne semble pas crédible au regard des religieux. Moi, je pense que le cadre par excellence du dialogue se trouve bien être les institutions à ce jour. Et cette tentative dangereuse de nous ramener à ce que nous avons cherché à tout prix éviter, qui signifierait que chaque fois on mettrait en place des institutions, mais que les décisions majeures pour l'avancée de la République se tiendraient hors institutions, alors que lui-même dit C'est éviter le dialogue, c'est faire les choses conformes aux lois. Et ces lois, c'est elles qui veulent que lorsqu'on veut adopter une loi électorale, qu'elle soit soumise aux discussions à l'Assemblée nationale, c'est le cadre consensuel par excellence, où l'on trouve les ressortissants de l'ensemble du territoire national. C'est dans ce cadre, l'unique cadre au sein duquel on peut se retrouver et dialoguer pour respecter les lois.
Professeur Tulumbayi, est-ce que ces deux confessions religieuses n'ont pas raison de demander un minimum de consensus des forces vives du pays et le dialogue, vu la tension qui règne quand même au pays, la CENI qui est très contestée, l'opposition qui demande à ce que certaines réformes soient faites, est-ce que finalement ce n'est pas important pour des élections apaisées, crédibles et transparentes d'organiser ce dialogue?
Madame, comment vous allez imposer à nous, élus du peuple, d'aller nous asseoir à égalité avec deux personnes qui se sont présentées avec nous aux élections et en qui le peuple n'a pas placé confiance, pour dire que nous allons devoir réformer les institutions et les lois du pays dans un cadre informel. Mais je demande, parce que vous avez posé une question pertinente à laquelle le révérend n'a pas répondu avec précision, qui prendront part à ces assises-là pour qu'elles soient les plus inclusives possibles? Nous avons 800 partis politiques à ce jour. Lorsqu'il cite la troisième catégorie de parties prenantes, il dit les parties prenantes au processus électoral. Je suppose qu'il s'agit des partis politiques. Ça signifie que pour qu'il y ait consensus majeur comme voulu, il faut que les 800 partis politiques se retrouvent à ces assises-là et qu'ils décident de ce qu'ils pensent être la réforme la plus consensuelle comme on pense. Il faut que toutes les églises se retrouvent, parce qu'il ne faut pas qu'on vienne encore dire que ça a été décidé par seulement l'église catholique et l'église protestante. Les kimbanguistes et contestes qui ont présenté le président de la CENI, ils auront besoin d'être là, l'islam aura besoin d'être là, l'église du révérend Denis Léchi aura besoin d'être là pour que ça soit absolument consensuel, parce que moi j'ai suivi ce genre de contestation. Lui-même, Denis Léchi, il a créé sa plateforme, il exige qu'il entre dans la plateforme des églises pour que ça soit consensuel. Toute la question, c'est celle-là.
Pour vous, ce n'est pas opportun d'organiser ce dialogue?
La rationalité en politique, c'est la conformité au texte. Si nous levons l'option désormais de tout faire au sein des dialogues privés, des officines informelles, où l'on aura besoin de per diem, l'on aura besoin, et en conclusion, j'informe au révérend si, je le mets encore au défi, s'il connaît dans l'histoire de l'humanité, un seul dialogue, une seule négociation réussie qui n'a pas abouti au partage des pouvoirs, qui nous la donne. Ceux qui exigent le dialogue aujourd'hui doivent dire clair qu'ils veulent aussi prendre part au gâteau.
Professeur Tulumbayi, la machine électorale semble être bloquée. La CENI se plaint du fait de ne pas avoir des financements, de ne pas avoir d'argent pour faire son travail, pour organiser le travail. On dit souvent du choc des idées jaillit la lumière. Est-ce que ce dialogue avec différentes forces vives de la République n'aiderait pas la CENI même les institutions de la République à trouver des moyens pour accélérer le processus électoral qui a déjà un retard de 5 mois?
Vous imaginez sérieusement que l'église catholique et l'église protestante et que Dissok de Lisanga Bonganga et la Mouka et consorts viendraient, n'est-ce pas, au dialogue pour apprendre au ministre des Finances comment mobiliser l'argent, ou il viendrait pour lui dire que toi tu ne mérites pas, il faut un autre ministre des Finances, donc partageons le pouvoir pour qu'on te donne un ministre des Finances qui soit le plus compétent. Ce qu'on veut, c'est compris, tout le monde le sait, on veut qu'on partage le pouvoir, dans l'idée certainement de dire qu'ils veulent aussi participer aux institutions, qu'ils veulent aller aux élections avec des institutions auxquelles elles prennent part. C'est ça l'idée sous-jacente de cette idée archaïque de dialogue qui cache souvent la soif de participer au pouvoir sans passer par les mécanismes régulés que nous avons tous mis en place et auxquels nous nous sommes formellement engagés, c'est les élections.
Professeur Bob Kabamba, vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes. Quelle analyse vous faites, professeur, de la proposition de la CENCO et de l'ECCS opportun en ce moment, aujourd'hui, d'organiser ce dialogue?
Merci beaucoup, madame, pour la question. Mais permettez-moi d'abord de pouvoir saluer le révérend Eric Senga et aussi mon collègue Chilumbay, mes co-débatteurs ce soir. Et puis bonsoir aussi aux auditeurs de Radio Capi, où qu'ils se trouvent dans le monde ou bien dans le pays. Je crois qu'il y a, à entendre un petit peu les discussions qui sont en train de se passer, je crois qu'il y a une confusion. Il y a une confusion à deux niveaux. Dans un premier temps, il est question des réformes électorales, c'est-à-dire il est question de la réforme de la loi électorale. Et ensuite, il est au deuxième moment, il est question du processus électoral par rapport au calendrier électoral. Je pense qu'il faut scinder les deux éléments. Et lorsque vous regardez dans l'histoire politique du Congo, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que on parle des réformes électorales, effectivement, il y a toujours eu des discussions aussi bien majorité qu'opposition, pour essayer d'avoir un minimum de consensus sur les règles claires qui vont être érigées en matière donc des élections. En 2006, ça a été le cas, c'était plus facile puisqu'on avait un système de 1 plus 4, donc tout le monde a été concerné par les réformes qui ont été adoptées à ce moment-là. En 2011, ça a été aussi le cas. Si vous vous souvenez, en 2011, il y a eu une modification donc de la loi électorale. Et là aussi, il y a eu des discussions aussi bien de la majorité que de l'opposition. Et en 2007 aussi, on a eu la même chose au moment de la même réforme électorale. Je crois ici, c'est que les deux églises, l'ECC et la CENCO, essayent de mettre sur la table, c'est de demander justement à ce qu'il puisse y avoir des discussions sur la réforme électorale. Et la discussion sur la réforme électorale pour arriver à un minimum de consensus, ce n'est pas le dialogue. C'est essayer de se mettre d'accord entre politiciens sur qu'est-ce qui doit être fait pour avoir un processus électoral crédible. Alors, on parle par exemple de ce qui concerne les cautions. Est-ce qu'on va garder les cautions ou pas garder les cautions? On parle de la formule électorale. Est-ce qu'on garde la proportionnelle ou la majoritaire? Ainsi de suite. Ce sont ces genres de questions, entre guillemets, qui nécessite d'avoir des discussions entre d'une part la majorité et d'autre part l'opposition. Ça a toujours été le cas. Ce n'est pas d'ailleurs le fait de la RDC seulement dans plusieurs pays. Et c'est comme ça que ça se passe. Lorsqu'il y a une réforme, il est indispensable que les gens se mettent d'accord parce que vous savez que la réforme électorale, c'est le nœud de la guerre entre politiciens. C'est ce qui établit qui va être élu député ou député national ou sénateur, etc. Et donc c'est là la nécessité d'avoir ce consensus par rapport à ça. S'il n'y a pas consensus, ça veut dire qu'on met déjà dans les processus des germes de contestation. Par exemple, en disant s'il y a une option augmentation, par exemple, de la caution des cautions non remboursables des candidats députés. Est-ce que tout le monde doit être d'accord qu'on augmente ou on diminue? S'il n'y a pas consensus en disant, s'ils ne se mettent pas d'accord, vous allez voir, vous allez commencer à avoir des discours où on dit, ils ont augmenté la caution pour que ce soit uniquement entre eux, pour qu'il n'y ait pas d'autres candidats, etc., etc. Et c'est ça, en fait, l'appel, je pense, de l'Église sur ce point-là. Ça, c'est le point capital, le premier point. À ne pas confondre avec le processus électoral en lui-même, tel qu'il est établi, tel qu'il sera à établir par un calendrier qui n'existe pas encore et que nous avons simplement une feuille de route. À la question de savoir.
En tout cas, professeur Bob Kabamba. Oui. Professeur Bob Kabamba, on a suivi Monseigneur Donatien Cholet, on a suivi le révérend Eric Senga. Ils parlent du dialogue et consensus autour des élections de 2023. Ils ne sont pas focus sur la loi électorale, c'est le processus électoral de manière générale.
J'y arrivais, madame. Il y a les deux points. Il y a deux points de consensus. Et puis il y a le deuxième point, j'étais en train d'y arriver justement. Dans le deuxième point, c'est à ce moment-là qu'on peut parler de 2023 n'aura pas lieu. Si 2023 n'a pas lieu, qu'est-ce qu'on fait? Et alors l'Église catholique et l'ECC disent il faut mettre autour de la table pour discuter à ce sujet. Nous savons très bien que nous sommes, on a eu la feuille de route. Nous sommes à 20 mois de l'élection présidentielle, législative et provinciale. Et à 20 mois, on n'a même pas encore eu de calendrier électoral. La feuille de route n'est pas le calendrier électoral. Et là, c'est quand même assez inquiétant d'être à 20 mois d'une échéance électorale et de ne pas avoir un calendrier et de ne pas avoir un budget, et de ne pas avoir un budget qui soit présenté aussi bien au Parlement que à tout le monde, ce sont des signaux inquiétants qui illustrent très bien que nous aurons des difficultés pour 2023. Alors, si on a des difficultés pour 2023, qu'est-ce qu'on fait? Alors, l'Église, les deux Églises proposent qu'il y ait des discussions. Ben, je vous rappelle aussi, dans l'histoire du Congo, il y a toujours les discussions ont déjà été érigées en mode de résolution des conflits. C'est-à-dire que lorsqu'il y a toujours des problèmes que l'on constate au niveau des élections ou même au niveau de l'armée ou même au niveau des rébellions, c'est toujours le mode de discussion pour arriver à s'en sortir. Et donc là, la proposition de l'ECC et de la CENCO, de mon point de vue, ne sort pas du cadre puisque c'est vraiment le véritable mode de résolution des différents conflits que l'on a connus en RDC, que ce soit le M23, que ce soit le CNDP, que ce soit les différents mouvements rebelles qu'on a eu pendant tout un temps. On a toujours résolu ces problèmes beaucoup par la discussion, plus par la discussion que par exemple, par les hommes. On a connu des crises politiques assez majeures dans le pays. La transition, toute une série de réformes qui ont été faites, mais les concertations, etc. C'est chaque fois quand il y a une crise, on passe toujours par les discussions. Et ce n'est pas un crime pour que de prôner justement ce dialogue-là. Et ce dialogue, c'est vrai que nous sommes dans un contexte qui est beaucoup plus difficile qu'avant, où on a effectivement l'insécurité à l'Est, où on a multitude de groupes armés, mais aussi où on a les aspects communautaires qui émergent et qui deviennent véritablement un poison pour le climat, pour la cohésion sociale et pour la paix en République démocratique du Congo.
Alors, est-ce que dialogue signifie élection crédible, transparente, professeur Bob Kabamba? Est-ce qu'en organisant ce dialogue, on peut se dire que après les élections, il n'y aura pas de contestation, tout le monde va accepter les résultats?
Là, nous sommes dans un processus politique. Il y a le processus politique et puis il y a le processus organisationnel qui sont deux choses différentes. Le processus politique peut se mettre d'accord sur toute une série de principes, sur toute une série de réformes et de directions à prendre pour qu'il y ait des élections apaisées. Mais là, la faisabilité, l'opérabilité de ces objectifs politiques pose souvent problème en RDC. On l'a connu en 2008, on l'a connu en 2011, même en 2006, où il y a eu des contestations par rapport à ces discussions. Parce que tout simplement, l'opérationnalisation n'a pas été optimale. De mon point de vue, s'il y a dialogue, ben, il faudrait qu'il y ait, au moment de ces discussions, l'optimalisation la plus forte, la plus pertinente, pour que cette opérationnalisation des opérations électorales soit la plus crédible possible. Et puis, l'autre chose aussi, qui est importante, c'est que de pouvoir jouer l'ouverture, c'est-à-dire non pas organiser les élections uniquement entre Congolais, il faut qu'il y ait des acteurs, il faudrait qu'il y ait quand même des observateurs extérieurs qui peuvent aider justement à crédibiliser tous les processus que l'on craint qui risquent de ne pas être crédibles si les conditions ne sont pas réunies, comme je viens de le dire.
On va prendre ces nombreux auditeurs qui appellent sur notre standard. Révérend Eric Senga, on va prendre cet appel qui nous vient de Kinshasa pour vous.
Docteur Alsangoy, depuis Kinshasa, la proposition de la CENCO et l'ECC pour des élections. Ici, nous devons dire qu'il s'agit de la répétition des mêmes propositions avant le début de chaque législature, depuis le début des élections dans notre pays. Et à la fin, nous n'avons jamais eu de consensus. Et ça sera aussi un moyen de nous éviter les élections dans les délais constitutionnels pour enfin faire porter les chapeaux au gouvernement central. Ces propositions devaient venir avant même la désignation des membres de la CENI. Et ils ont eu tout le temps de les faire, ils n'étaient que dans les disputes. Maintenant que le vin est tiré, nous devons les boire.
Révérend Eric Senga, brève réaction.
Merci beaucoup. Je voudrais juste rappeler au docteur que les discours sur les consensus n'est pas nouveau pour nous. Je crois qu'il vous souviendra, j'ai beaucoup d'émissions avec vous sur le plateau où l'ECC a souligné la nécessité d'avoir les consensus. Mais le plus important, je pense qu'il y a deux choses à éviter. J'ai suivi bien les professeurs Chilumbay. C'est d'une part de refuser de voir le problème ou le défi qui est déjà là. Donc il faut déjà qu'on se rende compte, au-delà de tout débat politique, au niveau opérationnel, la CENI est en difficulté. Et le cri des cœurs, le cri d'alarme poussé par la CENI doit nous rendre tous attentifs. Le deuxième problème, c'est la tendance à vouloir réduire les dialogues au partage du pouvoir. Comme si toute la solution du mécanisme de résolution des conflits est rémunérée au partage du pouvoir. Moi, je me dis, en bon analyste politique, si vraiment nous avons des politiciens ici dans ce pays, à une année de la fin de mandat, s'il y a encore des opposants qui rêvent d'entrer au pouvoir, c'est qu'il y a un problème sérieux, comme disaient les professeurs. Moi, je n'ai pas de théorie nouvelle à donner, mais plutôt un constat d'une répétition. Je vais chuter pour dire à notre ami, ce n'est pas laisser sur la scène coup qui pense jouer au glissement. Parce que si glissement il va y avoir, maintenant qu'il faille le constater, au regard de la feuille de route, je crois que le professeur Kabamba était très, très explicite, sur ses propos. Donc, il est plutôt question ici de prendre la mesure de la chose. Les dangers sont déjà là. Nous sommes en dépassement de près de 5 mois à la lumière de la feuille de route opérationnelle qui n'est même pas encore un calendrier électoral. Et donc, avec les manœuvres politiciennes qui commencent maintenant avec les agitations au niveau du Parlement, le risque devient de plus en plus grand. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire à notre ami.
On va se rendre à Kalemi pour prendre pour vous, professeur Jean-Claude Tshilumbayi, cette réaction.
Je suis Dejou Léon. Je vous appelle depuis Kalemi. La CENCO et le CC ont proposé une piste préventive des agissements post-électoraux constatés lors des 2 cycles électoraux organisés autrefois. En effet, les élections restent les vrais indicateurs de la démocratie dans un pays voulant être un état de droit, car après élection, il y a toujours des contestations sur le déroulement du processus électoral. Donc, nous suggérions que le processus proposé par la CENCO serait un gage des élections crédibles dans la première période du processus électoral, car toutes les parties prenantes aux élections auront une vision commune au départ pour éviter les contestations pendant et après les élections.
Réaction, professeur Jean-Claude Tshilumbayi.
Non, madame, le processus crédible n'est pas lié à ça. La CENCO a organisé un dialogue au centre interdiocésain. Nous sommes parvenus à ce fameux consensus. C'est pas pour autant dire que le processus a été accepté comme crédible. Vous suivez, dans ce pays, il y a un président élu qui clame chaque jour qu'il est président élu. Il est président élu. Lorsque le professeur Bob, que je salue, dit, en se référant bien sûr aux étapes de 2006-2011, et 2016, il n'a pas démenti le principe, c'est un politologue qui parle, qu'à toutes ces étapes, il y a eu partage de pouvoir. En 2011, on a vu les gens entrer avec l'AMPE au gouvernement, lorsqu'il a fallu négocier, soi-disant, pour un processus électoral apaisé. En 2016, c'est ce qu'il y a eu. Il y a eu 2 dialogues successivement avec 2 séquences de partage de pouvoir, Badibanga et Tshibala, avec des débauchages intervenus, notamment du côté de l'UDP. Et à toutes ces étapes, ces dialogues ont abouti au partage des pouvoirs, y compris à 6 mois des élections, parce que en 2016, nous étions net à la fin du mandat. Il n'y a pas manqué de politique pour penser que la solution passait par les rentrées dans les institutions. C'était ça l'objectif. J'ai dit bien que je n'ai pas été défié sur ce point-là. Ils ne me disent pas comment est-ce possible ou dans quel contexte il est possible d'aller à ce dialogue sans partager le pouvoir. Le professeur Bob souligne autre que ça a toujours été le cas dans tous les pays. Je me demande si c'est dans tous les pays, y compris chez lui en Belgique, à chaque élection on va au dialogue. Non, le dialogue c'est dans les institutions. On dialogue dans les institutions parce que la légitimité c'est là. Ceux qui ont fait 5 voix parce qu'ils ont des partis politiques, et que ça devienne un principe pour un pays, c'est scandaleux ça comme démarche. Moi je pense qu'à ce jour, la discussion érigée comme mode de règlement des conflits au Congo chez nous ici a toujours prouvé, j'ai dit qu'on ne m'en donnera pas d'exception, que l'objectif c'est le partage de pouvoir. Et malgré le partage de pouvoir, à la fin, on conteste les élections. Moi, je crois que cette proposition n'a pas d'autres objectifs que de créer de toutes pièces une crise que l'on veut peut-être utile pour certaines opinions politiques à ce niveau. C'est une boîte de Pandore qui s'ouvre.
Professeur Bob Kabamba, on va aller à Kisangani, dans la province de La Tchopo, pour écouter cet auditeur.
Franck Bilal, depuis la ville de Kisangani, la démarche entreprise par la CENCO et le SEC est salutaire, d'autant plus que cela permettra aux parties prenantes au processus électoral qui se pointe à l'horizon de tomber d'accord si certains préalables feront en sorte que les élections soient crédibles et démocratiques. À mon avis, je suis un peu pessimiste et dubitatif autant pour cette démarche entreprise par la CENCO et le SEC, le sens que notre pays a connu pas mal de dialogues et consensus pré-électoraux, mais au final, ça ne produit pas des résultats escomptés, car certains politologues avertis savent la théorie machiavéliste donne l'arrogance du régime une fois entré au pouvoir, servir le pouvoir même si le bilan est négatif. Que les élections soient apaisées et organisées au délai prévu, cela dépend des volontés démocratiques du pouvoir en place.
Réaction, professeur Bob Kabamba.
Oui, avant de réagir, je voudrais juste corriger mon collègue Timba. Quand j'ai parlé de partout dans le monde, ça concernait les réformes électorales. En fait. Les réformes électorales, ça veut dire lorsque l'on doit modifier les règles de jeu sur la répartition des sièges, le mode électoral. Je n'ai pas parlé de dialogue par rapport à tout le monde. Je parlais uniquement des réformes que on consulte toujours l'opposition lorsqu'on en fait les réformes électorales. Alors, sur l'autre question, même la question qui est maintenant posée ici par l'auditeur de Kisangani, et effectivement, c'est tout à fait juste ce qu'il dit. C'est qu'il faut d'abord des préalables. Il faut d'abord se mettre d'accord sur les préalables. Comment est-ce que sur quelques préalables, on va être d'accord pour pouvoir aller justement aux élections. Mais malheureusement, ces élections n'ont pas lieu, n'auront pas lieu dans les délais convenus. Alors, si les élections n'ont pas lieu dans les délais convenus, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ça que les gens doivent comprendre, c'est la question qu'est-ce qu'on fait, à laquelle l'Église catholique et l'Église protestante apportent une partie de la réponse en disant, ah oui, voilà ce qu'il faut faire. Alors, l'autre aspect, effectivement, on a déjà vu que lorsque l'on a le pouvoir, lorsque l'on est ce qu'on appelle le décideur, il va de soi que l'on ne pense pas toujours prendre des décisions qui vont à l'encontre de ses propres intérêts. D'où des fois que l'on a comme résultat au niveau des contestations et même au niveau des fraudes électorales que l'on a documentées dans les différents rapports des missions d'observation électorale. Alors là, justement, par rapport à cette question, les réformes électorales peuvent aider justement à consolider, à avoir un processus clair, avoir un processus qui va corriger un peu les méfaits que l'on a vus auparavant. Par exemple, comme je l'ai dit, la question par exemple des gouverneurs et des sénateurs, il faut qu'on arrive à régler la question par exemple de la corruption qu'il y a au sein des assemblées provinciales. Comment on peut régler cette question-là? Une partie de la réforme électorale peut contribuer justement à essayer non pas d'éliminer la corruption, mais d'atténuer autant que se peut ce fléau qui gangrène effectivement le processus électoral. Et je pense que ça aussi, quand il dit que malgré si même s'il y a un dialogue, les gens ne sont pas d'accord après, c'est parce que tout simplement, on ne tient pas compte nécessairement des difficultés que l'on a rencontrées aux précédentes élections et qu'on a la possibilité de les corriger et des fois, on ne les corrige pas.
Alors, professeur Bob Kabamba, certains pensent même aussi que si on organise ce dialogue et que les gens ne se mettent pas d'accord, ça risquerait de créer une autre crise. Votre réaction, ça sera votre conclusion aussi.
Je pense que ça sera vraiment une autre crise, malheureusement, qui ne sera pas une crise politique, mais ça sera une crise, on va dire, qui pourrait même déboucher sur des guerres communautaires, comme je l'ai dit tout à l'heure. On pourrait assister, probablement, à non seulement à la remontée en puissance des milices tribales, à la remontée en puissance des milices ethniques, à la remontée en puissance des milices provinciales, et nous aurons un pays qui va être à feu et à sang, et où on ne saura plus retrouver l'unité et la cohésion nationale. Donc, il est indispensable, de mon point de vue, que les esprits se calment et qu'on se retrouve autour d'une table pour régler, justement, ces différences questions et répondre à la question qu'est-ce qu'on fait après 2000, comme 2023 n'aura pas lieu, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? L'Église catholique et l'ECC ont mis sur la table une proposition et je suis d'avis que c'est une proposition qui en vaut la peine et qui peut aider à sauver des vies en République démocratique du Congo.
Merci professeur Bob Kabamba, révérend Eric Senga, Yatikout Nawejala, qui dit ceci: après le dialogue de 2016, la RDC a eu à organiser les élections les plus contestées par les Congolais. En quoi ces deux confessions religieuses pensent qu'après l'organisation du dialogue, la CENI va à son tour organiser des élections apaisées? Ça sera votre conclusion?
C'est pas les dialogues qui posent problème dans ce pays, madame, c'est plutôt les pratiques par moments anticonstitutionnelles, comme le disait le professeur Chimumbai, ou alors contraires à la volonté collective, qui nous mettent devant des situations nécessitant justement le recours à des mécanismes de résolution des conflits. Je ne vois pas si aujourd'hui, je l'insiste, il ne faut pas qu'on fasse semblant ou qu'on fasse croire à l'opinion qu'il n'y a pas de problème. Il faut que d'aucuns retiennent, nous sommes face à un sérieux problème. Au regard du calendrier, de la feuille de route présentée, nous sommes déjà en dépassement. Et nous devons prendre rapidement la mesure de la chose, pas seulement sur la loi électorale, mais sur un certain nombre, la logistique électorale, les options politiques pour aller aux élections et éviter de réduire le palais dialogue ou la discussion au partage des pouvoirs, sachant d'ailleurs que si nous avons l'Union sacrée aujourd'hui, c'est le travail qui a été initié par le chef de l'État, des consultations, et qui a abouti à une situation qui a tant soit peu stabilisé les institutions du pays.
Merci, révérend Eric Senga. Professeur Chilumbay, votre conclusion, 30 secondes.
Ma conclusion, madame, c'est que cette idée est une idée imprudente et malvenue. Après le dialogue de la Saint-Sylvestre, les premiers à contester les résultats ici de ce dialogue, c'était l'ECC et la SENCO. Donc, on ne peut pas nous dire aujourd'hui que ces pratiques qui ont montré leurs limites constituent une panacée aujourd'hui en soi. Respectons les institutions de la République. Ceux qui ont des idées peuvent bien les présenter aux assemblées législatives. La répartition des votes, les modes de scrutin, tout ça, c'est prévu pour être fait par les élus du peuple au sein des assemblées.
Merci.
Ce n'est pas prévu pour être fait par des gens qui ont perdu les élections, que le peuple a rejetées, qui doivent récupérer le pouvoir par la fenêtre. Ces pratiques doivent cesser.
Merci, professeur Chilumbay. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Donna Madimba qui l'a réalisé. La mise en onde était assurée par Polydor Basunga. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.